Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes exceptionnellement, non pas vendredi, mais samedi. Nous sommes le samedi 9 avril 2022 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 111. Je suis Laetitia et je suis toujours accompagnée d'Adrien qui, dans un élan de surprise, a voulu me couper déjà la
Bonjour
parole.
Bonjour à tous, ici Adrien, je coupe jamais la parole, très rarement. Ou alors on coupe après montage. Accompagnée de la méga connectée Laetitia, toujours sur tous les réseaux. Elle sait avant tout le monde ce qui se passe à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous a déniché cette semaine. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news simples et funky avec du Monoprix, du drone, du TikTok indéboulonnable et du Shein indétrônable dans le bullshit. Enfin, on prendra un petit café avec un passionné du UX qui nous transportera dans des univers e-commerce à la limite de la perfection.
Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun et des jeux et on vous challengera autour de l'actualité de la semaine. Laetitia,
Adrien, prêt ? Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
FedEx qui commence à planifier ses tests de drones autonomes pour des livraisons.
Little Cigogne, vous savez, la petite start-up qui est devenue grande depuis, qui est spécialisée dans l'habillement pour enfants, eh bien, elle vient de lancer son service de seconde main, Little Jest.
On a appris il y a quelques jours qu'Apple et Meta avaient fourni des données à des hackers déguisés en policiers. On vous laisse le lien découvrir ce qui s'est passé, c'est irréel.
TikTok, eh bien une nouvelle fois, l'application chinoise est la plus téléchargée pour le premier trimestre 2022.
Tremble Shopify, Dropbox lance sa nouvelle fonctionnalité. Elle était en bêta il y a quelques mois et elle est en bêta ouverte. C'est Dropbox Shop qui permet aux créateurs de vendre leurs contenus digitaux.
Monop, je vous le disais en intro, eh bien Monoprix met en vente des gâteaux. Jusque-là, rien de nouveau, mais sous forme de NFT. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Adrien, qu'est-ce que t'as trouvé ?
Il y a pas mal de choses, il y a une actualité, pas mal d'actualités là ces derniers jours autour des rachats, des levées et même des fermetures. Alors c'est Partout qui est spécialiste du référencement en ligne des magasins physiques qui rachète Pulp, solution de click and collect pour les restaurateurs. On est plein dans le commerce local.
De mon côté, bien, c'est Litchi et Mangopay. Vous vous souvenez, Litchi, c'était, j'ai l'impression que ça a peut-être déjà 10 ans quand on lançait des cagnottes. Et maintenant, ça y est, c'est devenu hyper commun. Mangopay, c'est le côté plutôt fintech et banque du côté du groupe Litchi. Eh bien, les deux viennent d'être vendus à un fonds américain. Oui, parce que c'était français.
La solution de One Click Payment Fast ferme ses portes.
But rachète Drawer.
Ouais, Drawer, c'est un pure player qui fait la distribution de mobilier. Donc, on n'attendait pas nécessairement But racheter pure player.
Je ne suis pas hyper convaincu de ce rachat.
La fintech Bolt Financial qui va racheter la startup de Crypto Wire pour 1,5 milliard de dollars.
Et la news what the fuck de la semaine ?
Eh ben, on en a une chacun, Laetitia. La mienne, c'est Carrefour qui lance son fonds dédié aux startups de la retail tech. Donc Carrefour qui s'associe à Daphne. Daphne qui est un fonds d'investissement. Le partenariat, ou en tout cas l'association, ça va s'appeler Dastor. Alors je les cite, ils entendent soutenir des startups early stage par le biais de prises de participation minoritaires en France et à l'international. Bah, ça s'intègre dans la stratégie digitale de Carrefour qui avait annoncé l'année dernière un plan d'investissement dans le numérique de 3 milliards d'euros pour les 4 prochaines années. Donc c'est intéressant de voir qu'ils vont se focaliser d'abord sur les petites startups, en tout cas sur les startups en early stage. Et ils vont Carrefour explique qu'ils vont permettre à ces startups justement d'accéder à leurs clients, de les aider à accélérer sur les marchés où ils sont, et également partager les données. Donc ça semble super intéressant. Je suis quand même assez sceptique quand j'ai vu ça. C'est pour ça que je l'ai vu en what the fuck. J'attendais pas du tout Carrefour. Alors je suis sceptique parce qu'en fait, est-ce que Carrefour est légitime et suffisamment agile dans leur ADN pour avoir l'expertise et l'accompagnement pour accompagner des startups et des jeunes investisseurs? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se disperser? Mais d'un autre côté, ils sont en train d'occuper le terrain ils occupent bien le terrain avec live shopping, métavers, magasins autonomes, etc. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de Carrefour, donc ça doit vraiment pas mal travailler au sein de Carrefour. Et côté positif, si je suis un peu moins rageux, ça va donner plus de poids à l'écosystème startup en France versus les UK et l'Allemagne si on regarde au niveau européen. Et tu vois, les UK, on sait que qui sont très très forts en fintech. Donc pourquoi pas, on pourrait se dire que grâce à Carrefour notamment, mais aux autres acteurs également, on pourrait spécialiser dans les retail tech et on pourrait avoir une vraie légitimité européenne et mondiale. Et puis ça va de toute façon aider les startups à accélérer. Donc tout ce qui peut aider les startups à accélérer, c'est bien. J'ai parlé avec différentes personnes qui sont dans le milieu des fonds, qui sont assez sceptiques quant à cette initiative. Mais bon, on va continuer à suivre. On va voir les premiers investissements qu'ils vont faire. Et Carrefour, ils ont déjà investi dans des boîtes. Donc, et Daphné derrière, c'est un fonds. Donc eux, ils sont experts. Donc si ils arrivent à correctement travailler ensemble, ça pourrait peut-être bien fonctionner. Mais voilà, j'attendais pas du tout cette news et j'étais assez surpris. Tu l'as vu passer toi, Laetitia?
Non, je l'ai pas vu passer.
Ou tu choisis, c'est les
exactement. Ouais, mon cerveau sélectionne.
Avec quoi, Laetitia, toi, de ton côté?
De mon côté, je vous préviens, c'est un épisode très très chinois, très dédié à Shein et pas dans le bon sens du terme. Alors, on vient d'apprendre que Shein pourrait être évalué plus de 100 milliards de dollars selon Bloomberg. Ça m'étonne énormément, mais bon, pourquoi pas. Ce qui m'étonne le plus, c'est que Shein vient de lancer. Alors, j'étais sur le site parce que j'avais vu quelqu'un un petit peu en colère contre Shein sur LinkedIn et qui dénonçait le Shein Act. Et donc, du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le Shein Act? De quoi ça parle encore? Je me suis dit, ça doit être des engagements environnementaux que Shein a pris et tout. Alors, c'est presque ça, sauf qu'en fait, c'est une campagne marketing qui est presque électorale. C'est hyper, c'est vraiment, en plus, en cette période, vraiment, c'est hyper étonnant. Et donc, vous allez sur, je vous le mets dans les notes, pas de bas de page, mais dans les notes de l'émission. Vous allez du coup sur Shein Act. Et puis, en fait, c'est un challenge qui est co-organisé avec les petits copains de TikTok. Et l'idée, c'est que de mars jusqu'à juin, Shein vous invite à trier, à upcycler. Donc, c'est transformer vos vêtements et puis aller troquer. Et puis, bien évidemment, on vous incite à le faire vite, à en donner ou en upcycler beaucoup. Pour gagner quoi? Des bons d'achat Shein, pour aller consommer encore plus sur Shein, quand on sait que Shein est quand même dans l'hyper, hyper fast fashion. Je suis pas hyper convaincue de cette campagne. Je suis pas hyper convaincue de l'engagement de Shein, d'autant plus aussi quand on connaît les conditions des travailleurs et des travailleuses dans les usines de Shein. Et puis alors après le partenariat avec TikTok, ça m'étonne pas plus que ça. Et du coup, ça m'a fait doucement rire. Ça me fait aussi vraiment m'énerver parce que je sais que Shein fait aussi partie des apps les plus téléchargées. J'en ai pas parlé là. J'ai juste parler de TikTok, mais Shein, c'est une des apps les plus téléchargées, en tout cas dans l'univers retail, fashion et aussi aux États-Unis. Donc, on a beau décrier la fast fashion, finalement, c'est quand même la super fast fashion qui prend le pas et qui vient nous donner des leçons au détriment du GIEC, par exemple, d'upcycling et de troc et de comment faire attention à la planète.
On est en plein greenwashing là.
Complètement.
Ils se foutent du monde, ouais.
Et en plus, alors quand vous allez sur le site, dites-moi le nombre de fautes que vous avez repérées, parce que moi j'en ai repéré un paquet. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette campagne? Personne n'a relu, au-delà du fait que c'est du foutage de gueule, prêtez attention au moins à ce que vous écrivez, quoi. Voilà, premier coup de gueule Shein, next. La news dont on s'emballait, Adrien.
Bah ouais, la news, elle était presque une news intéressante. Ouais. On m'envoie ça sur mon Slack en interne d'entreprise. On me dit, regardez, Primark qui lance son site e-commerce. Donc, on en a beaucoup parlé, surtout toi, Laetitia, au micro, en expliquant que Primark n'avait jamais voulu lancer son site e-commerce, qu'ils étaient complètement contre, qu'ils veulent protéger les magasins. Malgré le Covid, la fermeture des magasins, ils ont dit non, on reste, on est convaincus que c'est les magasins. Donc, je vois la news, ils lancent leur site e-commerce. Je me dis, waouh, fantastique, je clique dessus. Une jolie page d'accueil, c'est cool. Très vite, je clique, mais il faut cliquer vraiment pas mal de fois pour arriver sur une fiche produit. Et je me dis, et je vois, pas de panier, pas de possibilité de rajouter un produit. Et en fait, c'est pas un site e-commerce. Donc, pour me moquer un peu, j'ai expliqué, non, c'est un catalogue en ligne interactif. Donc,
et je crois que tu as la disponibilité des produits dans certains magasins.
Voilà, j'allais y arriver. Ouais. Voilà, j'allais y arriver. C'est la seule particularité. Mais attention, c'est quelque chose qui est en termes d'intégration. C'est un gros travail. C'est le travail sur la disponibilité des stocks en magasin. Donc, tu peux naviguer sur le site. Tu as l'ensemble du catalogue et tu peux savoir où est-ce que le produit est dispo ou pas. Donc, c'est une non-news. Mais cela dit, derrière, quand on creuse un petit peu, il y a une grosse agence, je crois que c'est Publicis, mais je ne suis plus sûr, ouais, qui les accompagne. Et il y a du Commerce Tools derrière.
Commerce Tools.
Tu ne prends pas du Commerce Tools pour juste avoir un catalogue en ligne. Donc, c'est la première phase, c'est la première étape. C'est certain, c'est certain que dans quelques mois, ils vont activer, certainement pour un premier marché ou pour un premier périmètre, la vente en ligne. Et ils ont commencé peut-être de le faire, de phaser le projet. Donc pour le moment, non news. Mais cela dit, le site, il est joli. Enfin, je l'ai vu sur desktop. J'ai pas vu sur le mobile. J'ai pas testé. Mais ça se navigue rapidement. Enfin, ça se navigue. On navigue bien rapidement. Les produits, ils sont de bonne qualité. Les images sont de bonne qualité. Donc plutôt bien foutu le site. Mais ce sera une vraie news quand ils seront en ligne et qu'on comprendra mieux un peu leur stratégie. Toi, t'as vu passer ça, Laetitia?
Ouais, je l'ai vu passer.
T'as mixé.
Non, je l'ai vu passer. Pareil, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette news? Alors j'étais au début, j'étais surpris. Je me suis dit, ah, c'est génial. Enfin, ils se mettent sur l'e-commerce. Après, il faut voir comment est-ce qu'une marque de la super fast fashion aussi se met sur le marché du e-commerce, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. Bon, visiblement, ils ont décidé d'y aller. Et pareil, voilà, quand j'ai vu que finalement, c'était justement plutôt de la gestion, enfin pas de la gestion stock, mais en tout cas de la disponibilité des produits en magasin, je me suis dit, oui, bon, en fait, ils n'y sont pas encore. Mais effectivement, ils vont y être. Enfin, quel est l'intérêt de proposer ce genre de service si ce n'est pas pour proposer et en plus, comme tu le dis, ils sont accompagnés de Commerce Tools. Donc, bon, j'espère bien qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur stratégie e-commerce.
Quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on parle de nous, de ce qui s'est passé cette semaine ou ces derniers jours dans nos vies, pro ou perso, et liés à l'e-commerce. Laetitia, quoi de neuf chez toi?
Quoi de neuf chez moi? Alors, j'ai passé quelques jours à Londres cette semaine, donc j'ai pris le téléphone de beaucoup de gens que j'ai rencontrés, je leur ai demandé de laisser des étoiles, machin, tout ça, vous connaissez l'histoire. Et puis, il y a surtout un commentaire à qui j'ai jamais demandé à cette personne de laisser un commentaire. C'est Baptiste Nicolas, et je crois que j'avais déjà fait une reco à propos de son outil qui est Widget, qui est de la possibilité de faire des vidéos, vous savez, sur votre site, enfin, de la fiche produit avec de la vidéo. Et du coup, Baptiste Nicolas nous a laissé un petit commentaire que je vous lis. Un podcast pro qui donne le smile. Comment ai-je pu attendre plus d'un an avant de me créer un compte Apple Podcast et enfin attribuer une review à LCDE? C'était pourtant si simple. Bref, vous l'aurez compris, je recommande ce podcast pour sa ligne éditoriale, son authenticité, sa communauté, ses présentateurs et leur bonne humeur. Plutôt rare d'écouter un podcast pro qui te donne le sourire. Voilà, ben, merci Baptiste. Baptiste, c'est vraiment un fidèle. Je crois que je l'avais vraiment découvert. Je crois qu'il m'avait démarché sur LinkedIn et j'aimais bien son produit. Je lui ai dit, ben, vas-y, viens, on peut en parler, dans le podcast où je peux présenter ton produit, et on a gardé le contact, et c'est vraiment un fidèle auditeur parce qu'à chaque fois qu'il y a un épisode, il l'écoute et souvent il le prend, il arrive à en tirer parti pour son produit.
Ah ouais, c'est vraiment super. Donc très actif sur les réseaux.
Quand on avait reçu G7 Media.
Merci beaucoup de ce très, très, très sympathique commentaire. Je crois qu'on est à 110 notes du coup, donc plutôt cool.
Yes.
Quoi d'autre, Laetitia?
Quoi d'autre? Alors j'en ai parlé, je l'ai un peu glissé la semaine dernière, cette petite news très personnelle. Je sais que vous adorez ma vie perso, pas du tout. Alors, bah, j'ai supprimé Uber Eats, ça y est, je crois que j'étais peut-être l'une des premières à avoir cette satanée application sur mon téléphone. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non, ça répond à un supposé besoin, c'est que j'ai la flemme, voilà, donc économie de la flemme, ce que je décris très souvent dans ce podcast. Est-ce que je peux pas agir autrement? Oui, je peux le faire, donc j'ai supprimé. Donc la réalité, c'est que je peux vivre sans, mais j'ai toujours des vieux réflexes. Oh, j'ai pas le temps, vite, je peux commander, ça va être plus rapide. Non, la réalité, c'est que je peux pas venir au micro décrier le quick commerce, aller dans des réunions publiques et être assez d'accord avec ce qui s'y dit et me dire que j'ai encore cette application qui est sur mon téléphone et que je participe à cette économie qui est pas mauvaise en tout cas, mais qui ne correspond pas à moi et à mes standards de vie, en tout cas à mes objectifs de vie. Donc tout va bien, vous inquiétez pas, j'arrive à ne plus dégainer mon téléphone pour commander à manger. Non, je consomme autrement. Donc voilà, la vraie question, c'est est-ce que ça va durer?
Donc t'as désinstallé Uber aussi?
Alors bah non, bah tu vois, c'est ça le truc. Non, parce que je suis rentrée de Londres jeudi soir très très tard, dernier Eurostar, pas un seul taxi. Il a fallu que je marche très très loin et il y avait toujours pas de taxi, et donc là j'ai pris un Uber.
Non,
la réalité c'est que
bout,
Uber, ça répond.
Faut y aller jusqu'au
non,
bout.
Non, parce que non, c'est différent, Uber, c'est différent. C'est un vrai service, ça, et c'est pas de l'économie de la flemme. Alors après, on peut toujours contester effectivement la qualité de travail, enfin l'environnement de travail des chauffeurs. Et en plus, moi, j'aime bien les chauffeurs Uber parce que je peux discuter du podcast avec eux et leur demander de laisser des notes. Un peu plus compliqué avec des chauffeurs de taxi.
Autre chose.
Toi, Adrien.
Ouais, c'était ça.
T'as supprimé quelque chose ou t'as rajouté quelque chose ou...
Non, je crois pas. Non, il y a.
Sinon, n'oubliez pas d'aller voter, si vous nous écoutez, c'est important. Voilà.
Non, trois petites choses. La première, pour la première fois, pas il me semble, j'en suis certain, j'ai acheté des NFT pour faire plaisir à un ami artiste, parce que bon, en tant que ça, en tant que tel, j'en ai pas vraiment l'utilité, mais je voulais lui faire plaisir et surtout je voulais voir un petit peu le process. Je vais pas te décrire tout le process, mais je vais juste le résumer en une chose, en une phrase. C'est compliqué. Malgré tout ce qu'on dit, OpenSea qui est le super leader, la marketplace où tu peux acheter en quelques clics. Non, tu peux pas acheter en quelques clics ou en beaucoup de clics. Et pour quelqu'un qui s'y connaît pas, bah c'est pas simple. On te demande de transférer des fonds. Il y a des frais qui sont mis à jour en temps réel. Alors tout ça, c'est crypto, c'est blockchain. On comprend. Enfin, on comprend. Je comprends ce que ça veut dire. Mais je trouve que c'est toujours très compliqué. À un moment donné, il faut signer. Il faut attendre un délai parce que tu verses des fonds sur une autre blockchain. Il faut attendre que les fonds soient disponibles, on va dire, avant de pouvoir finaliser la transaction. Donc, c'est pas du tout comme tu peux être habitué en B2C où tu vas, tu mets tes informations bancaires, tu mets payé. Non, il y a plusieurs étapes. Alors, ouais, il y a des possibilités de contournement, de verser plus, etc. Mais toujours est-il que j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai dû acheter deux NFT à 20 balles, un truc comme ça, donc pas grand-chose. Mais je n'étais pas du tout convaincu et j'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup à faire pour simplifier le process. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être simplifié parce que derrière, il y a beaucoup de briques technologiques, mais c'est loin d'être accessible à n'importe qui. Et donc, oui, il y a des opportunités de faire des interfaces qui vont peut-être de simplifier l'UX, en tout cas de le faire de manière plus rapide. Mais j'étais étonné de voir que j'avais l'impression que ça aurait été c'était beaucoup plus simple que ça. Et non, ça ne sert à rien. Donc je vais là-dedans, j'ai mis deux petites images et complètement inutiles. Mais on en parlera tout à l'heure justement.
Adrien, moi j'ai une question. Est-ce que tu crois vraiment, enfin moi peut-être que c'est fait exprès, tu vois, que ce soit pas accessible,
Sélection, hein. L'interface ils la veulent super simple et tout ça en trois clics, des trucs pour des teubés. Mais moi je suis vraiment très très bête. Bon bref, tu dois le lier à MetaMask,
etc. OpenSea,
c'est ça. Mais bon, il faut le lier à des plugins, des machins, des trucs. Et c'est pas tu dois quitter le site pour faire certaines choses, pour valider certaines choses, etc. Donc non, je te mets au défi de mettre quelqu'un qui travaille pas dans la tech et de lui dire bah vas-y, crée-toi un compte et achète ce NFT à 5 euros, et en plus il y a des frais, donc le truc 5 euros en fait ça va coûter 45 euros. Donc bon voilà, c'est pas si simple que ça, ou en tout cas pour un truc à 10 balles ça vaut peut-être pas le coup. Ça vaudrait peut-être le coup pour des choses qui coûtent plus cher. J'en sais rien. Ou alors, il aurait fallu le faire différemment.
Demande à Bart d'augmenter ses tarifs.
Il en a justement. Il vend certaines de ses toiles ou de ses trucs à 1000 euros. J'ai dit, non, mais,
donc, tu es en train de nous dire que tu es possesseur de
donc, j'ai officiellement
d'une partie
de NFT.
D'une œuvre d'art.
Voilà, c'est ça. Deux petits logos que j'ai essayé ensuite d'offrir à quelqu'un. Et pareil, c'est pas si simple que ça. Je pensais qu'en un clic, je pourrais lui filer. Et c'était pas si simple. Mais donc, on va continuer. Et ça, encore une fois, je suis sûr qu'il y a plein de technos, plein de choses qui vont être faites pour simplifier les usages. Deuxième chose, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai donné une conférence à l'EBG. Donc, la boîte pour laquelle je travaille, on est à l'EBG. On avait une conférence cette semaine. Ben, écoute, c'était plutôt bien.
Un webinar.
Ouais, c'est ça, un webinar. Je trouvais ça plutôt cool parce que je m'attendais à pas grand chose, et en général tu sais, pour avoir dans un webinar, pour avoir 10 personnes, il faut déjà en contacter un paquet, et au final à la fin t'as pas
ouais, non mais le BG il travaille bien,
il travaille super bien. Il y avait une centaine d'inscrits et à la fin une cinquantaine qui étaient présents, qui étaient connectés. Ce que j'ai trouvé fou,
sans compter ceux qui vont regarder le replay et
puis c'était un mercredi à 11h, donc c'est pas nécessairement le meilleur horaire aussi, donc vraiment pas mal. J'étais étonné de l'organisation et je revois un petit peu la vie de, enfin je sais que le BG c'est très, enfin, c'est de bonne qualité, mais là, en l'occurrence, le travail qui a été fait et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Peut-être le petit bémol, c'est que c'est pas si simple que ça. Il faut créer son compte, etc. Tu peux pas juste en un clic y accéder. Mais donc, du coup, après, ils ont la data.
Mais c'est normal, c'est un club.
Ouais, mais bon, il y a des webinaires qui sont très ouverts. Et en fait, ça reste un club. Et enfin, la dernière chose que je voulais partager, c'est Fast, nos copains de Fast, enfin, mes copains de Fast. Donc, quand j'ai travaillé chez Demandware, Salesforce, il y en a plein qui sont partis chez Fast. La boîte, la FinTech, qui te permet en un clic de pouvoir acheter sur tes sites. Moi, je voulais donner mon avis un petit peu là-dessus. Donc, on a vu, il y a pas mal de choses qui ont été dites dans les news. Ceux qui sont passés au travers, solution, on va dire, très bien valorisée. Elle était valorisée de plus de 500 millions de dollars, qui permettait de proposer un peu le bouton que tu as sur Amazon, sur acheter en un clic. Et tu proposes ce bouton-là pour des marques, pour des enseignes. Donc, la promesse, elle est intéressante. Et ils avaient même levé 100 millions de dollars en 2021. Et il y avait Stripe derrière. Stripe, c'est fintech, donc ils s'y connaissent. On pourrait se dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Et donc, ils comprenaient le business dans lequel ils étaient. Et donc la boîte, elle a fermé du jour au lendemain. On a appris qu'il perdait 10 millions de dollars de cash par mois et qu'ils avaient très peu de clients. Enfin, je ne me souviens plus exactement combien ils généraient de cash, de revenus, mais ce n'était pas grand-chose. Et le point que je voulais dire, c'est les gens qui travaillaient là-bas, les personnes qui travaillaient là-bas, je bossais avec eux. C'était des gens smart. Et donc le problème, il est... en tout cas, ce que je voulais juste souligner, c'est que le problème, c'était... pas du tout à propos des personnes. Les personnes, elles délivraient. Je les connaissais personnellement et c'était vraiment très talentueuse. Mais c'est derrière l'horreur que ça doit être de travailler. Tu avances, tu travailles, tu réussis à ce que tu fais tous les jours. Et puis, du jour au lendemain, on te dit, bah, en fait, la boîte a été pas correctement gérée ou survalorisée et on doit fermer. Ça doit être très difficile. Je vais pas non plus tomber dans l'autre extrême Calimero, les pauvres, parce que ce sont tous des profils qui sont hyper spécialisés, qui vont trouver du boulot très facilement. Donc, on va pas non plus trop les plaindre. C'était des boîtes, enfin, dans ce domaine-là, e-commerce, fintech, customer experience, je m'en fais pas du tout. Ils vont trouver du travail très facilement, mais c'est difficile. Donc, j'attends de voir et on le verra là cette année, de la consolidation, d'autres boîtes qui vont fermer en ayant échangé avec quelques personnes du milieu. C'est que le début. En tout cas, c'est pas que le début parce que ça avait déjà commencé l'année dernière, mais on va voir de plus en plus ces boîtes qui ont été survalorisées et qui à un moment donné ne délivrent pas ou sont pas à la hauteur des espérances et malheureusement, il y a des convenus derrière. Voilà un petit peu pour les news de mon côté, Lucia. On passe à la suite.
Allez, c'est parti.
Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle dans le débat et le tout sans langue de bois. Alessia, tu avais retenu une grosse news cette semaine et tu voulais nous en parler. Qu'est-ce que tu avais pour nous?
Alors en réalité, c'est pas une grosse news, c'est une grosse observation de Laetitia Lamarie qui était à Londres ces derniers temps. Okay. Très observatrice, Laetitia Lamarie, je me dis, mais je vois plein de... Alors je vois pas, mais je me disais, je vois des noms que je connais sur notamment les bus, les espaces publicitaires dans le métro, les abribus, sur les taxis. Bref, tout ce qui est, j'ai envie de dire, mobilité urbaine et aussi espace de publicité urbain. Donc, je vois beaucoup de pubs pour Cazoo. On en a déjà parlé, qui avait levé beaucoup d'argent. C'est pour de la location de voitures, je crois, Cazoo. Getir, qu'on ne présente plus. Pretty Little Things, qu'on ne présente plus, mais on va quand même le dire. C'est aussi de la fast super fashion, donc du retail. En ligne. Zoom, je vais plus présenter cet outil qui a vraiment s'est démocratisé et a percé pendant le confinement. Zap, qui est aussi du quick commerce. Et puis, bien évidemment, Shein, mon préf des prefs. Et ben, tout ce que je viens de citer, c'est les seuls et uniques que j'ai vus et qui dominent l'espace publicitaire. Donc, que ce soit à l'intérieur des transports en commun, mais aussi à l'extérieur et aussi dans les taxis. Et du coup, je me suis revue quelques années auparavant, quand moi, j'étais beaucoup plus jeune et que je vivais dans la capitale britannique. Mais c'était pas le genre de publicité que je voyais, mais pas du tout. On était beaucoup plus dans d'autres services, par exemple la téléphonie, des opérateurs mobiles, beaucoup de voyages. On voyait aussi des restaurants qui faisaient la pub et surtout aussi beaucoup de... comment est-ce qu'on dit ça? L'univers des loisirs, comme le cinéma, par exemple. On voyait beaucoup d'affiches de films, beaucoup d'affiches pour les grands spectacles qui se tenaient à Londres et là, plus du tout. Donc, dans un premier temps, je me dis, je suis contente, l'industrie à laquelle j'appartiens, vraiment, on en parle, on en voit et pas uniquement dans l'émission le podcast de Café des Commerces. Et voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, c'est hyper mainstream et aujourd'hui, qui ne connaît pas tous ces acteurs? Très peu. Et tout ce qui les relie, c'est que c'est que du service en ligne. Il n'y a pas de boutique là-dedans. Enfin, Shein, Pretty Little Things, il n'y a pas. Zoom, c'est un service qui est quand même à la base ultra professionnels et on les voit partout. C'est comme si c'était, je peux pas vous dire, mais c'est comme si c'était McDo, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et on ne voit plus les acteurs assez traditionnels du retail, du type du Uniqlo ou du Nike ou quoi. Donc je me suis dit, mais en fait, ces gens-là n'investissent plus. Ils ont décidé de délaisser ces espaces publicitaires. Qui a de l'argent aujourd'hui, ceux qui lèvent et ceux qui sont, qu'on voit beaucoup, mais qu'on n'entend pas. Enfin, moi, j'entends pas beaucoup Shein, par exemple. C'est pas des gens qui prennent souvent la parole. Getir, si, un petit peu. Bon, voilà. Pretty Little Things, le mec, une fois a pris la parole et ça s'est hyper mal passé. Donc voilà, c'est des gens qu'on n'entend pas, mais c'est des gens qu'on voit. À la différence des autres acteurs d'il y a peut-être, je dirais, 10 ans, c'était des gens qu'on entendait, qu'on voyait. Ça paraissait normal dans leur stratégie d'être affichés et placardés un peu partout. Bon, j'ai pas été sur... j'ai oublié le nom de cette grande place où on voit en affiché partout et toutes les pubs de manière numérique. Je me suis pas rendue là, mais je me demande à quoi ça ressemble aussi aujourd'hui. Voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Londres aussi, c'est une place hyper importante. Tu viens de parler de Fast. Je crois qu'il y avait c'était pas britannique, mais c'était anglais. Enfin, pas anglais, mais américain. Ils avaient beaucoup de gens et un grand bureau en Angleterre. C'est facile pour l'univers un peu tech en Angleterre, en tout cas plus facile qu'en France. C'est aussi facile de percer que de fermer boutique. Mais Londres reste une ville hyper attractive, hyper facile. Je me suis demandé si un jour à Paris, ça pouvait être comme ça. Alors oui, on voit du Getty un peu partout et du Flink, mais sur leur propre, enfin sur les taxis.
Oui, puis c'est du B2C. B2B, peut-être, à la Défense, à la limite, tu verras les trucs, les grosses boîtes de
peut-être,
conseils.
Mais je ne vais jamais à la Def, donc je peux pas dire.
Puis ça m'avait marqué quand j'étais à San Francisco. Tu vois toutes ces boîtes B2B et tu vois une pub Salesforce, tu dis waouh.
Ouais, exactement.
Donc ça doit être hyper marrant, mais quand j'étais à Londres aussi, ça m'avait marqué. Toutes ces boîtes de B2B qui font de la pub, tu dis mais ils jettent de l'argent par la fenêtre. Mais en fait, non, parce qu'il y a beaucoup de cadres, beaucoup de gens qui travaillent dans la tech, de décisionnaires.
Ça leur parle. Ouais. Ça m'a rappelé ce qu'on s'était dit pendant, quand j'avais parlé du Super Bowl où justement, mais Salesforce qui prend la parole, il y a Coinbase qui prend pas la parole, mais qui est un espace publicitaire. On l'a arrêté, c'est qu'on entend très peu de RRI tout ça, mais ça parle aux gens en fait. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une petite observation. Elle est à London.
Quand une pub podcast LC2 dans le métro parisien.
Ah mais ce serait tellement bien. Ça coûte hyper cher.
Je crois qu'il y avait eu une campagne d'un gars qui a fait ça. Il avait pris juste un carré. Enfin je sais pas si c'est possible, mais ils avaient pris un truc pour une semaine parce que ça coûtait pas cher et il s'était pris en photo devant quoi. Je trouve ça la fame de ouf. Ouais.
Le jour on lèvera des fonds, le jour tout ça. Sinon, il nous reste Apple Podcast les gars et puis LinkedIn. Voilà. Hier, Métacommerce, Métaverse, Métacommerce, Métanews, c'est la rubrique dédiée au Métaverse. Que vous soyez novice, expert ou juste curieux, on vous embarque dans l'univers du Métaverse. Adrien, tu nous parles encore des NFT.
Ouais, alors déjà, faut dire que pour cette semaine, on avait une dizaine de news. On les a toutes virées au final et on va en garder que deux. Il y a de plus en plus de choses qui touchent autour, beaucoup de com qui touchent au métavers, métacommerce ou NFT. Et on en a choisi deux qui nous paraissaient intéressantes. En tout cas, j'en ai choisi deux. La première, c'est Visa qui considère, qui investit dans les NFT, ou en tout cas qui y croit, qui communique autour de ça et qui considère les NFT comme le nouveau e-commerce et lance un programme. C'est un programme d'éducation envers les nouveaux marchands, les entrepreneurs, ça s'appelle Visa Creator Programme et ils veulent éduquer justement toutes les personnes autour des NFT, ce que c'est, ce que ça peut apporter, l'économie, etc. Donc on vous a mis un lien, je trouve ça intéressant que Visa qui commence à se positionner dessus, mais tout comme un paquet d'acteurs qu'on va pas citer ici. Et de l'autre côté, je parlais tout à l'heure d'une NFT qui sert à rien dans mes deux petits logos. Si Bart il écoute ça, il va se foutre de moi, enfin il va m'appeler, il va pas être content.
Non,
des super.
T'es pas gentil.
Les
hein.
deux super NFT que j'ai acheté. Ils sont bien dans mon OpenSea, dans mon interface. Et Samsung qui communique sur ses nouvelles Smart TV, ou en tout cas sur ses Smart TV qui va permettre d'exposer ses NFT. Et pour le coup, je trouve ça pas bête. Parce que quand Samsung, ils ont un truc qui s'appelle The Frame, c'est comme un tableau. Et tu vas pouvoir mettre tes tableaux. Et bien là, tu peux imaginer de mettre tes NFT. T'es tellement content d'avoir tes NFT. Ouais. Tu les montes à tes potes, etc.
C'est à moi.
C'est un truc de beau, je trouve. Ça sert à rien. Mais je vois très bien la cible ou des personnes qui pourraient le faire. Donc je pense que pour le coup, c'est un angle qui me paraissait intéressant et un constructeur comme ça, comme Samsung qui se positionne dessus. Donc, il y a plein d'angles NFT métavers qui sont intéressants et qu'on va commencer à découvrir dans les usages dans les prochains mois.
Quand les NFT LCDE. Un café avec, c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept que nous n'avons pas l'habitude de traiter, ni Adrien ni moi-même. Cette semaine, on a pris un café, enfin Adrien a pris un café puisque vous avez compris que j'étais pas là cette semaine, avec Olivier Sauvage. Il est déjà venu dans le podcast, il nous raconte toujours des choses merveilleuses. Spoiler, cette semaine, il nous parle d'UX à travers un site B2C et un site B2B, ou comment un site de vélo ou un site d'avion peuvent provoquer chez nous un effet waouh.
Et j'ai le plaisir d'être avec Olivier aujourd'hui. Bonjour Olivier.
Bonjour Adrien.
Comment ça va depuis la dernière fois ?
Écoute, ça va bien et toi ?
Bah ouais, très bien. Tu m'as dit en off tout à l'heure que tu étais très busy, c'est ça ? Beaucoup d'activités en ce moment ?
Un gros démarrage d'année très compliqué, beaucoup de choses. Et puis l'actualité a quand même un impact sur le business, donc du coup ça rend les choses assez tendues, on va dire.
Bah écoute, je suis content de savoir que tu as pas mal de projets. Et justement, aujourd'hui, je voulais échanger avec toi parce que tu es venu avec deux sites intéressants dans ta besace.
Ouais.
Écoute, alors, qu'est-ce que tu avais pour nous aujourd'hui ?
Bah, deux sites avec des parcours utilisateurs assez originaux. Un site que j'aime beaucoup parce que c'est un site qui vend des vélos. Et c'est une marque que je trouve très, très chouette et qui ont fait quelque chose de vraiment sympa au niveau des interactions avec l'utilisateur. Et le deuxième, c'est plus original, c'est aussi de la vente en ligne, mais c'est des produits qu'on a rarement l'occasion d'acheter puisqu'il s'agit d'Airbus. Donc c'est pas tous les jours qu'on achète un Airbus. Mais je trouvais ça rigolo de parler de ça parce que finalement, dans le B2B, on fait aussi du merchandising, c'est comme dans le B2C. On a aussi besoin de séduire, on a aussi besoin de faire rêver. Et un acheteur d'Airbus, c'est un client, un être humain comme un autre finalement. Donc il a besoin d'être séduit avec un peu les mêmes artifices. Donc voilà, c'était un peu le temps dont je voulais parler.
Super, j'ai hâte que tu nous en parles. Alors, on a pris un, tu nous as choisi un B2C, un B2B. On commence par le premier. Il s'appelle comment et pourquoi il t'a marqué?
Alors, il s'appelle Van Moof. C'est une marque hollandaise de vélo électrique urbain. Ce qui est très à la mode en ce moment, évidemment. Mais eux, ça fait très longtemps qu'ils sont sur le marché. Et ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est qu'en fait, ils ont un ADN assez puissant. Et on va retrouver sur le site web une esthétique et un esprit de marque qui correspond exactement au design des vélos. Et ce qui est vraiment super chouette, c'est que... Alors, on est sur un site e-commerce presque monoproduit, puisque je crois qu'on a 3 ou 4 modèles seulement, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est une toute petite gamme. Sur ce genre de site, justement, en général, on en profite pour faire un merchandising très, très poussé, avec beaucoup de détails, beaucoup de photos sur les détails des produits. Alors, sur un vélo, on peut faire pas mal de shoots, on peut photographier le pédalier, on peut photographier les freins, etc. On peut mettre ça très, très... très très en valeur. Et alors moi, ce que je trouve vraiment vraiment sympa sur Van Moof, je crois que c'est vanmoof.com, c'est en fait on peut vraiment interagir avec le site. Et ça, je trouve que c'est vraiment un concept intéressant qu'on peut utiliser sur d'autres sites. Alors ça veut dire quoi interagir? En fait, c'est pas juste cliquer sur des liens, c'est vraiment pouvoir utiliser le vélo comme si presque comme si on était en magasin. Parce que tu sais, Adrien, que on est tous de plus en plus en télétravail. On en parlait tout à l'heure, justement, avant d'enregistrer. On va un peu moins en magasin qu'avant la crise du Covid. Et par contre, on passe beaucoup plus de temps sur les sites web. Et c'est vrai que ce qu'on a sur les sites web, c'est pas les mêmes sensations qu'en magasin. Évidemment, on n'a pas les odeurs, on n'a pas le toucher, on n'a pas les ambiances, on n'a pas les autres personnes. Par contre, on peut quand même essayer, avec le numérique, de faire du simili vraie vie, on va dire. Et là, sur Van Moof, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut un peu toucher les vélos. Alors, on peut vraiment interagir avec. Donc, par exemple, quand vous allez sur la page d'un des modèles, vous pouvez très bien, par exemple, appuyer sur la manette de frein pour voir comment ça marche. Vous pouvez appuyer sur le pédalier pour faire accélérer le moteur électrique et voir comment ça marche. Vous pouvez essayer même de voler le vélo et pour voir comment fonctionne l'alarme anti-vol. C'est super chouette d'ailleurs parce que sur le cadre du vélo, on le voit pas, mais il y a une petite tête de mort qui apparaît en LED électroluminescente quand on essaie de voler le vélo sous la peinture du vélo. C'est super bien fait et c'est super bien retranscrit sur le site. Et du coup, ça donne déjà tout de suite un peu la sensation du vélo alors qu'on l'a même pas encore vu en réalité. Et je précise d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que si je dis pas de bêtises, Van Moof vous propose d'essayer les vélos. Et je dirais peut-être une bêtise, mais je crois que vous pouvez même vous faire livrer le vélo pour l'essayer. Alors, vous voyez, il pousse le concept assez loin. Mais en tout cas, ce qui est chouette là sur le site, c'est à la fois la mise en scène qui est très sympa. On a vraiment une composition de page ultra, ultra bien léché. Et puis, on a toutes ces astuces interactives qui fait que quand on va sur le site de Van Moof, on vit une expérience un petit peu originale, un petit peu innovante. Un peu ce qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le grand modèle de tous ces sites-là, c'est le site d'Apple. Mais on retrouve vraiment la même qualité de programmation, d'animation, de photographie, de rédaction des textes qui sont très, très courts aussi et qui font qu'on accroche très, très facilement à la marque, en fait.
Olivier, tu vois, là, donc comme tu l'as dit, il y a très peu de produits. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et pour les auditeurs, on parle de vélos entre 2500 et 3500 euros. Les fiches produits sont extrêmement... la page produit est très longue. Et pour autant, il n'y a pas beaucoup de texte. C'est très expérientiel. Beaucoup d'images, beaucoup de photos. Et les caractéristiques, elles sont toutes à la fin. Ce qui m'amène à la question, c'est qui la cible? C'est les experts de vélo qui veulent savoir exactement la taille de la batterie, etc. Ou c'est un peu... Non, les gens qui veulent avoir un vélo sympa et qui ne veulent pas les détails.
Oh bah la cible, c'est des gens comme toi et moi, Adrien. C'est des urbains.
Je ne suis pas un expert du vélo du tout, voilà.
Ouais, mais tu vas t'y mettre. Une factorabilité de 20 ouf. C'est des urbains. Aujourd'hui, la tendance au vélo électrique, elle est extrêmement forte. C'est un marché qui est en train d'exploser. Il y a eu un article sur les Échos, là, je crois, cette semaine, d'ailleurs, qui en parlait, qui disait que bientôt, on vendrait plus de vélos à assistance électrique que de vélos musculaires. Ce que je trouve dommage à titre personnel, mais bon. parce que pour moi le vélo c'est son moteur, mais en tout cas non, il y a une véritable appétence du public pour ça. On a de plus en plus de, je pense que ça vise beaucoup les jeunes urbains dans des villes comme Paris ou dans les grands centres européens, pas forcément des capitales d'ailleurs, qui ont envie d'abandonner la voiture mais d'avoir un véhicule individuel. Et le véhicule individuel des jeunes urbains aujourd'hui, c'est vraiment le vélo à assistance électrique. Et il se pose, Vanmoof se pose vraiment au bon endroit, puisqu'on est sur des prix qui sont des prix, ça peut paraître cher, mais comparé à une voiture c'est pas cher, comparé à un scooter c'est le même prix finalement, et on se retrouve avec un véhicule non polluant, facile à utiliser, facile à entretenir, joli qui plus est, hein. Les membres de nous sont plutôt bien designés, même très bien designés. Et voilà, et ça marche. D'ailleurs, tu disais toi-même qu'il n'y avait plus aucun vélo à vendre sur le site.
Ouais, justement. Donc, en faisant le, tu m'as envoyé l'URL, là, j'ai regardé un petit peu. Il a fallu que j'aille sur le quatrième vélo pour trouver enfin un vélo disponible. Et tu vois, donc, la première chose que je fais quand on m'envoie un site, si je regarde, ça a été construit avec quoi? C'est du Drupal derrière. Donc, il a été super customisé parce que sur le front, c'est impec. Et je t'ai fait une petite réflexion off. Je t'ai dit, en général, ça se standardise beaucoup au niveau du panier. Dès que tu rajoutes un truc, après, c'est tous les sites classiques. Et bien là, je vous invite, bah, déjà, premièrement, la quête de l'impossible, trouver un produit, trouver un vélo qui soit disponible, et ensuite faites le test, parce que tu as différentes étapes, vélo, accessoires, services, panier, et c'est hyper intuitif, hyper, hyper bien fait. Ce qui m'amène, toi, tu as l'œil UX, design, ergonomie, accessibilité, c'est quoi là, le truc qui t'a marqué par rapport à d'autres sites de vélo ou d'autres sites en général? Il y a un truc, une petite feature ou quelque chose qui t'a dit waouh, c'est vraiment pas mal?
Ah bah, moi, c'est ce que je te disais, c'est vraiment les interactions, en fait. C'est vraiment le fait qu'on se jouer avec le vélo, pouvoir quasiment le toucher, on va dire, avec la souris ou avec le doigt, et éprouver les sensations qu'on pourrait éprouver quand on voit pour la première fois qu'on arrive dans un showroom et que voilà, le vélo est posé devant nous, qu'on ose à peine le toucher tellement il est beau. Là, c'est exactement la même sensation, et c'est vraiment ce merchandising, ce travail sur les photos, sur la mise en scène du produit, sur les interactions qui ont été créées pour pouvoir éprouver en fait ces caractéristiques techniques. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Je ne savais pas que c'était une solution standard de e-commerce, mais c'est bien la preuve qu'on peut faire des choses très, très belles avec des solutions standard.
Vraiment top. Merci pour cette reco. Et je suis sûr que ça a donné envie à beaucoup de personnes, bah, à minima, d'aller visiter le site. Et faites-le sur mobile et sur desktop. C'est le genre de site où il y a des expériences différentes qui sont vraiment bien optimisées sur mobile. Mais sur desktop, là, je le conseille sur desktop. Il est vraiment très, très bien fait également. Deuxième site que tu avais pour nous, B2B. Donc là, je fronce un sourcil, parce que B2B, en général, surtout sur l'ergonomie et sur le design, c'est pas nécessairement les sites qui sont le plus mis en avant. Et en plus, c'est assez what the fuck, parce que tu me parles d'avion. Alors explique-nous de quoi il s'agit et comment s'appelle ce site.
Oui, en fait, alors c'est le B2B, on en parle moins en général dans le e-commerce, mais en fait, c'est quand même un domaine qui est en train de changer et d'évoluer beaucoup. Les marques et les producteurs, les fabricants, je pense beaucoup aux industriels, ont de plus en plus intérêt à soigner leur image de marque, et ça passe beaucoup à travers le site web. En fait, on arrive à un phénomène identique à celui de l'automobile il y a quelques années, où le commercial est devenu quasiment inutile. Vous voyez, quand vous entrez dans une concession automobile, vous avez souvent des petits jeunes avec des costards cravates qui attendent impatiemment que le client rentre. Et quand le client rentre, il sait déjà exactement ce qu'il veut, il sait déjà exactement le modèle qu'il veut. Il a juste besoin de signer un bon de commande. Alors, je dis pas que dans l'industrie, on en est à ce stade-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des clients qui vont se renseigner de plus en plus sur le web, qui vont assister à des webconférences, à des webinars, qui vont décortiquer dans le moindre détail ce que vous présentez sur le site. Et donc, on a ce phénomène qui est que, en fait, quand le client arrive, le client est déjà très, très, très informé sur le produit. Donc, en B2B, aujourd'hui, que vous soyez retailer, enfin distributeur, ou que vous soyez fabricant, vous ne vendiez pas directement, vous avez intérêt à soigner votre image de marque à fond et présenter le mieux possible vos produits. Et donc là, c'est pour ça que je suis venu avec iFlyd, c'est HIFLY.aero. Alors, ils ont une extension de domaine qui est un peu étrange, qui est un marchand d'Airbus. Alors, c'est des Airbus cargo, c'est pour transporter des marchandises. Quoique, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais je crois qu'on peut aussi acheter des Airbus pour des...
Ouais, il y a pour des personnes, je te confirme. Parce que là, je suis sur la page first class, la business class, et mes yeux, ils pleurent, tu vois.
Voilà. Et donc, c'est assez marrant parce que, en fait, de se dire qu'on peut acheter... Alors, on ne peut pas acheter vraiment des avions en ligne, mais en tout cas, c'est vraiment marrant de se dire que là, on peut avoir accès en fait, au monde de l'aviation comme si on était un acheteur de flotte pour une compagnie aérienne. Et là, c'est vraiment le cas. Et ce qui est vraiment génial dans ce site, c'est justement qu'ils ont utilisé les codes du design de site e-commerce B2C pour les appliquer au B2B. Donc on voit que les deux langages de communication graphique et d'identité visuelle ont tendance à se rejoindre. Finalement, vendre en ligne des Airbus, bah, c'est comme vendre des vélos presque, hein, vraiment sérieusement. D'ailleurs, on pourrait quasiment appliquer les recettes de Vanmoof à iFly. Bon, sauf que iFly, là, ils ont choisi une approche alors très... très interactive aussi, où la présentation des avions se fait pas comme sur une liste produit, mais on voit littéralement les avions voler dans le ciel. On peut cliquer sur les avions et hop, il y a des interactions qui arrivent. Et je trouve ça vachement sympa parce que du coup, ça casse un peu on imagine le sérieux qu'il peut y avoir dans ce monde-là. Hein. Quand on achète un avion, on parle pas de 1000 ou 2000 euros de panier moyen. Je sais pas combien coûte un avion. On est souvent sur des centaines de milliers, voire peut-être des millions. Mais on voit qu'on est sur les mêmes codes graphiques, les mêmes codes d'interactivité. Et c'est ça qui est chouette. Donc, il faut vraiment aller le voir sur le site. C'est iFly.aero. Vous verrez que vous pouvez vraiment, pareil, en fait, rentrer dans un avion. Vous pouvez choisir un A320, un A340, un A330 selon vos besoins. Si vous avez besoin, je sais pas, si vous avez beaucoup d'enfants, bah, prenez un A340. Apparemment, ils sont plus grands. Vous pouvez mettre plus de monde à bord. Et puis, vous pouvez cliquer dessus. Et puis, l'avion, hop, vole devant vous, se déploie devant vous. Et puis après, vous pouvez rentrer dans les détails.
Tu sais, Olivier, on pourrait imaginer, c'est simplement un site vitrine. Mais là où je te rejoins, et ça touche l'e-commerce, ça pourrait presque être un catalogue en ligne interactif, c'est que tu as la description produit comme un site e-commerce B2C. Tu as les caractéristiques, le poids, la taille, la cargaison, etc. Ils ont, comme tu dis, ils ont repris tous les codes et je suis vraiment impressionné. Et avec une navigation très clean, très verticale pour le coup. Donc, ils jouent avec les codes justement de t'es dans le ciel. Et le design aussi est très aéré. En tout cas, sur version desktop, il est vraiment pas mal. Ouais. Toi, tu bosses souvent avec des clients et tu fais beaucoup de B2B. Et je crois que la dernière fois, on avait parlé justement d'un des clients B2B. C'est peu commun d'avoir des briefs comme ça, d'aller aussi loin dans tu vois, des codes qui sont un peu différents de ce qu'on peut s'imaginer du B2B ou des codes préétablis.
Alors, c'est pas évident. Je peux pas répondre pour tout le marché. Nous, on a des clients B2B. Alors, pour donner un exemple, on a travaillé avec une filiale de Saint-Gobain qui s'appelle Omnisil Solutions, qui vend, alors tiens-toi bien, un produit passionnant qui est le joint de réacteur, le joint de fusée. Alors, c'est des produits extrêmement chers, extrêmement onéreux. C'est pas des marchés énormes, mais ils travaillent aussi pour l'aviation. Et là, oui, nous, on a pas mal travaillé sur le design du site. Alors, pas trop sur les interactions, même si... Alors, c'est toujours compliqué, en fait, de faire des sites comme ça, parce que quand vous êtes designer, et tous les designers qui font des sites web le savent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment très créatif, on s'amuse bien, on fait des interactions, on fait des super protos, et on se dit, youpi, le client va accepter ça. Le client, en général, est très content. Et puis, au fil du temps, quand le projet commence à passer dans les mains des intégrateurs, et puis que les vraies contraintes commencent à apparaître, souvent on dégrade pas mal ce qui avait été conçu au départ pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus sage. Donc iFly, c'est plutôt un exemple quand même assez rare de site B2B en termes d'interaction. Moi, je trouve ça vachement bien, personnellement. Après, ça entraîne sans doute aussi des contraintes qu'on ne voit pas à l'écran là, des contraintes de maintenance. Parce que maintenir un site comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'un site un peu plus classique. Mais ce qui est certain, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un industriel, si vous êtes un distributeur dans le B2B, si vous êtes une société de service dans le B2B, soignez votre image. Et soigner votre image, ça passe pas seulement par la conception d'un site très complet avec des contenus qui aient l'air sérieux, etc. Ça peut passer aussi par, alors pas forcément un site complet, mais parfois juste des pages pour présenter une offre en particulier et y apporter une touche un peu de, j'allais dire de folie, mais pas de folie, mais en tout cas d'interaction qui engage le visiteur parce que votre visiteur, encore une fois, votre acheteur B2B, c'est un être humain, enfin c'est un vrai acheteur B2C, c'est le même quoi. Dans la vraie vie, il va aller sur les sites e-commerce pour lui. Et dans la vie professionnelle, il va aller sur les sites e-commerce B2B. Et en fait, il a intérêt à retrouver un peu les mêmes gimmicks que ceux du B2C. Donc, ça vaut le coup. Et d'autant plus quand même que dans les sociétés comme ça, on a des moyens qui sont quand même nettement plus conséquents que dans le B2C. Je ne parle pas des très grandes marques en B2C, mais quand vous vendez des avions, le prix d'un site web, c'est l'épaisseur du trait par rapport à des avions que vous allez vendre. Donc, ça vaut vraiment le coup à ce moment-là de se dire, allez, je vais peut-être dire un gros mot, mais on va investir 15, 20, 30 000 euros en plus sur un site web qui vaut 100 000 euros pour avoir quelque chose qui vraiment, paf, en met plein les yeux de votre utilisateur, même si c'est sur smartphone, parce que vous pouvez aller voir les deux sites dont on vient de parler sur smartphone. Et franchement, c'est aussi bluffant sur smartphone que sur desktop. Et ça fait toute la différence, quoi. C'est important. C'est pas juste, j'ai fait un truc pour... pour épater les gens. Ouais, c'est j'ai fait quelque chose qui va créer, je sais pas, une émotion qui fait que derrière on va se dire tiens, cette marque là elle est vraiment intéressante parce que elle a une approche un peu différente des autres et j'ai envie de continuer avec elle.
Merci beaucoup Olivier, c'était passionnant. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter si on veut se faire accompagner ou si on veut échanger avec toi?
Alors le plus simple, c'est d'aller me chercher sur LinkedIn ou sur Twitter. LinkedIn c'est Olivier Sauvage et sur Twitter j'ai encore mon ancien pseudo Capitaine, donc vous tapez juste @capitaine et vous me trouverez.
Ça vaut de l'or maintenant d'avoir ce genre de nom sur Twitter, non?
Ouais, je sais pas, peut-être.
T'as dû l'ouvrir il y a très longtemps.
T'étais, ah oui, c'était un des premiers comptes Twitter en France, je pense. Ouais.
Écoute, merci beaucoup Olivier, on mettra tout ça en commentaire et puis au plaisir d'échanger très vite pour d'autres sites ou d'autres sujets autour de l'ergonomie et de l'accessibilité.
Ah, bon.
À plus.
Merci Adrien, salut.
Reco micro, au micro, on fait nos recos, écoutez-les illico presto. N'oubliez pas de retrouver toutes nos recos, il y en a un paquet, sur la page Notion du podcast LCDE et le lien est dans la description. Adrien, de quoi nous parles-tu? NFT?
Non. Je vais faire le suivi un peu de la semaine dernière. Ma recommandation, c'était une page LinkedIn d'une personne qui lançait chaque semaine des news e-commerce. Là, c'est un peu pareil, mais plus axé supply chain et logistique. Donc, ça intéressera pas tout le monde, mais je trouve ça bien pour compléter également ses connaissances de l'écosystème. On en parle de la supply et de la logistique dans le podcast. Mais si vous voulez vraiment faire un focus et savoir tout ce qui se passe autour d'UPS, FedEx, même Amazon parfois et d'autres acteurs de la supply, c'est la page LinkedIn de Nate Skiver, il est américain, et vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer sur follow et vous serez sur votre flux LinkedIn, vous pourrez voir chaque semaine son débrief de l'actualité. Il fait juste lier des bullet points avec les choses marquantes de la semaine. Laetitia, c'est quoi ta reco?
Bon, je vais pas en parler des heures parce que du coup c'est quand même un épisode à charge. je crois que c'est quelqu'un dans le groupe WhatsApp qui l'a posté, je suis plus très certaine. Eh bien, moi je vais vous parler d'un, je sais pas si c'est un rapport, en tout cas c'est un reportage, l'envers du décor de la super fast fashion qui nous parle de Shein. Voilà, j'en dis pas plus, allez-y. J'ai l'impression d'être vraiment même pas la voix, c'est pas du tout l'avocat du diable du coup, mais d'être plutôt le diable en personne. Mais allez-y, je pense que ça éclaira un peu vos lanternes, en tout cas sur mon discours.
Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on s'amuse et on se détend. Aujourd'hui, Laetitia, tu es la maîtresse du jeu et on va s'amuser autour du digital. De votre côté, n'hésitez pas à participer et à jouer contre moi, essayer de trouver plus rapidement la réponse. On va faire un French Connection. Alors, le French Connection, c'est très simple. Laetitia, tu vas nous donner des mots et il va falloir le plus vite possible que je trouve le lien entre tous ces mots.
Et cette semaine, ce ne sont pas des mots, mais ce sont des noms.
D'accord.
Alors, Adrien, si je te dis Rihanna...
Mais tu sais que je suis donc nul. Enfin oui, si tu me traites des trucs, des célébrités ou ça.
Mais il n'y a pas que toi, il y a des gens qui nous écoutent.
Eux, ils trouveront, mais moi, je suis complètement à la ramasse, quoi. Donc, je crois que c'est une chanteuse, mais c'est la seule chose que je pourrais te dire de Rihanna.
Ok, bon, Rihanna, Lizzo.
Je ne sais même pas ce que c'est, next.
Qui c'est? Kim Kardashian.
Ouais, bon, alors comme tu as parlé de Shein, ça va peut-être être les égéries Shein. Ou des nanas qui ont critiqué Shein, ou alors un truc NFT, qui ont lancé un truc NFT, non?
Non. Allez, et la dernière, Aya Nakamura. Ouais, je sais pas qui
TikTok,
c'est non plus.
Parce que t'as parlé des apps les plus téléchargées, donc c'est peut-être les influenceuses les plus qui percent le plus sur TikTok?
Non, il n'y a pas trop de rapport avec l'épisode de la semaine. Bon, déjà, tout à l'heure, tu as bien trouvé, ce sont des célébrités. Et ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont à la tête d'une marque de mode inclusive. Bon là, je suis super, super, super niche. Voilà, donc pour Rihanna, on a bien sûr Savage X Fenty. Pour Lizzo, qui est une chanteuse, Adrien, que tu as forcément déjà dû entendre, elle a lancé sa marque de shapewear. Donc shapewear, c'est tout ce qui est pour les formes, en fait. Enfin, pas pour les formes, mais la mise en valeur des formes du corps féminin. Elle a lancé sa marque Yeezy. Kim Kardashian, ça a fait très longtemps, et je pense que c'est l'une des précurseurs, en vrai. Je sais pas si c'est la bonne... en tout cas, sur la gamme shapewear. Elle a lancé Skims il y a très longtemps. Et puis Aya Nakamura, alors elle n'a pas lancé sa marque, mais en tout cas, elle a fait beaucoup de partenariats, notamment avec Etam et Undies, sur de la lingerie inclusive. Donc ce qui les relie, c'est de pouvoir proposer de la lingerie sur, enfin pas de lingerie, mais en tout cas des vêtements, de la lingerie, toutes les tailles. Pour Rihanna, elle va même encore plus loin, elle va sur des non-binaires, elle propose aussi des choses pour les hommes, elle propose plein de choses. Donc voilà, c'est ce qui les relie. Et ce qui les relie également, c'est que, sauf pour Aya Nakamura, c'est que ce sont toutes des NVB. Donc, digital native, tout ça, c'est que du en ligne. Voilà. Bon, désolé Adrien, je reconnais que c'était difficile et que seul moi et mon cerveau.
Ça, ça a permis de voir mon ignorance complète sur le showbiz et toutes ces choses-là. Donc voilà.
Mais c'est pas le showbiz, c'est la musique. Okay. Kardashian, ça fait 15 ans qu'elles sont à la télé.
Et ça fait 15 ans que j'ai pas de télé, donc c'est peut-être pour ça. Mais bon, non, mais bon, c'est très bien. C'est très bien.
Télé,
je suis sûr
YouTube.
Que 99% des personnes qui nous écoutent vont se marrer. Ils vont dire que je suis complètement ignorant, mais ce n'est pas très grave. Ça changera rien à mon truc. Mais en tout cas, pour reprendre sur ce que tu dis, bah, tu vois, elles ont beaucoup d'influence. Je trouve ça génial. C'est elles qui poussent les lignes, tu vois. Ça vient pas des marques traditionnelles. Donc, putain, il faut attendre des influenceurs ou des célébrités qui créent leur marque, qui créent leur code. Les clients, leur fan base, ils vont acheter, puis les autres se disent ah bah faudrait peut-être commencer à réfléchir différemment sur l'inclusivité, etc. Donc chier les autres et bien jouer à elles. Et donc elles ont
il a dit chier. Voilà. Il a dit chier les autres. Oui, cet homme vient des années 80. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. On a bien rigolé, on a bien bitché, surtout moi, cette semaine. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission sur le site lecafédelecommerce.fr. Laissez-nous 5 étoiles, n'oubliez pas. Prochain chauffeur Uber, je te demanderai de laisser 5 étoiles.
Merci à tous pour votre écoute. On vous prépare une petite exclusivité nationale. Si tout va bien d'ici la fin du mois, on aura quelque chose de fou au micro. Et donc,
Truc de ouf, ça dépasse les métaverses.
Moi, je trouve ça génial, donc on ne peut pas trop en parler, même si on a énormément envie. Mais bon, voilà, d'ici 2-3 semaines, vous devriez avoir de nouvelles avec des trucs super intéressants. Et d'ici là, à la semaine prochaine, au revoir tout le monde.
Ciao tout le monde.
Si tu veux un TGV,
va pour